Strasbourg pilote. Arts et lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Professeur Gérard Berry, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Algorithmes, machines et langages de 2012 à 2019. Vous avez eu la médaille d'or du CNRS. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies. Vous êtes l'auteur du livre L'hyperpuissance de l'informatique, un très gros succès de librairie. Et c'est édité chez Odile Jacob. Alors aujourd'hui, nous allons parler pour une deuxième partie d'interview par rapport au livre que vous venez de faire paraître chez Odile Jacob, dont le titre est « Le temps vu autrement ». Alors, la dernière fois, vous nous avez parlé de ce livre, bien sûr, notamment de votre vision du temps qui est vraiment novatrice, et vous nous avez montré comment le temps est essentiel pour notre société et les dangers sous-jacents dans des domaines variés comme l'industrie, les télécommunications, l'informatique. Et puis dans ce livre, il y a aussi, c'est très savoureux parce qu'il y a de l'humour et l'amour des mots. Vous êtes amoureux des mots, vous êtes un écrivain dont les mots sont complètement significatifs et apportent une autre variante dans le domaine de la science. Alors là, est-ce que vous avez aimé ce titre que je vous ai proposé, le cloud informatique? Est-ce que le cloud est toujours en informatique?
Alors oui, c'est une notion très intéressante au niveau du temps. Je consacre chaque petite entrée au bas de cette notion, pas seulement au cloud. Le cloud, c'est quoi? C'est l'idée de calculer non pas sur des ordinateurs locaux qu'on a chacun dans les mains, mais de faire calculer sur un réseau d'ordinateurs gigantesques qui s'appelle Internet. Internet, je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliards d'objets dessus, d'objets informatisés. Et les hommes sont complètement minoritaires sur Internet, hein, ça faut le savoir. Donc Internet, c'est un réseau qui va transporter de l'information sous forme de petits paquets, mais qui ne connaît absolument pas le temps. C'est-à-dire que dans Internet, il n'y a pas de temps. Les paquets, bon, il y a beaucoup de chemins possibles d'un endroit à un autre, et chaque petit paquet, c'est tout petit un paquet, quand on envoie un texte ou n'importe quoi, il est coupé en tout petit paquet, et chaque petit paquet peut prendre son itinéraire à lui, peut se perdre, peut se trouver tué parce qu'il n'a pas pris le bon chemin, donc on le tue pour ne pas encombrer le réseau et tout. Et ça finit par marcher pour des raisons assez profondes et pas faciles à comprendre, mais voilà, il ne faut pas orienter les paquets n'importe où. Alors ça, c'est très intéressant parce que Internet ne connaît pas du tout le temps. Si on compare au téléphone, alors le téléphone passe entièrement par Internet maintenant, mais si on compare au téléphone, les réseaux téléphoniques classiques, même électroniques, qui étaient déjà informatiques, les réseaux France Télécom et tout, eh bien, eux, ils connaissaient complètement le temps et tout était fondé sur le temps et Internet a fait le choix inverse. Et ce choix est payant. Pourquoi? Parce que dans un central classique, il faut faire une carte, il faut en permanence avoir une carte du réseau. Internet, on ne peut jamais faire de carte. Il y a beaucoup trop de choses, on ne peut pas faire de carte. Donc, au lieu d'avoir un temps garanti, on va faire un peu de statistiques et puis si un paquet n'arrive pas dans la voie, personne ne s'en aperçoit. Et même dans un film, on remet l'image d'avant, si elle n'arrive pas, personne ne s'apercevra de rien. Et donc, on va travailler de façon beaucoup plus approximative. Mais il y a beaucoup de mathématiques derrière pour que ça marche très bien. Donc, le cloud, c'est l'idée de ne pas calculer sur son ordinateur, mais de calculer sur les tables d'ordinateurs. Alors, pourquoi? parce qu'ils sont beaucoup plus puissants, parce qu'ils n'ont pas les mêmes logiciels, parce que ça revient moins cher, il y a beaucoup de raisons à ça. Et par exemple, tout ce que vous faites en ce moment, sans le savoir, avec des systèmes, par exemple, de traitement de la langue, tout ce qui est, quand vous avez un texte qui s'écrit brutalement sur votre iPhone, c'est fait à distance, là. Pourquoi ? Parce que la communication n'est pas très chère. Donc ça, c'est un système qui n'est pas connu des gens, quasiment, qui pose des problèmes absolument redoutables techniques. Il y a peu de gens qui savent les résoudre, mais heureusement, il n'y a pas besoin de beaucoup de solutions. Et donc, j'ai tout un chapitre contre ça s'appelle l'informatique asynchrone, l'informatique qui n'a pas de temps. Mm-hmm. C'est complètement différent de celle que j'ai fait, moi, dans ma carrière, qui est l'informatique synchrone, qui connaît le temps. Par exemple, quand on pilote un avion, il faut connaître exactement le timing de tout, et on a fait des langages qui contrôlent le temps de façon extrêmement précise. C'est deux opposés. L'informatique est très vaste. Et là, ces deux opposés-là, il y en a un troisième, c'est l'informatique classique, dans lequel le temps n'est jamais un paramètre, c'est plutôt un impôt à payer quand on fait un programme. Voilà. Donc, le cloud, ça maintient des bases de données distribuées à grande échelle, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'occurrences sur la Terre, et quelle que soit la question qu'on pose à une base de données, on a une réponse cohérente, etc. Donc ça, c'est un domaine totalement inconnu du public, comme l'a d'ailleurs l'informatique en général, et qui est quand même énormément présent, c'est-à-dire tout le monde utilise ça tout le temps.
Alors, pour continuer sur ces idées de mathématiques et numériques et informatiques, est-ce que vous pourriez nous donner la différence entre mathématiques, numériques et informatique, quel est le lien, quel est l'ensemble supérieur qui englobe les autres, comment est-ce que ça se passe, mathématiques, numériques, informatique?
Alors ça, c'est une question absolument passionnante que je traite en grand. Les mathématiques, c'est une chose très ancienne, qui est née probablement en Inde, déjà avec les nombres. Et les nombres étaient connus en Inde bien avant ailleurs. D'ailleurs, j'ai explosé de rire un jour avec un métésar qui était syrien. Et à un moment, je lui dis, prends comme exemple les chiffres arabes. Et le syrien me dit, mais c'est quoi les chiffres arabes? Moi, je regarde d'un air étonné. Les chiffres arabes, c'est 0 à 9. Il éclate de rire. Il me dit, moi, je suis arabe. Nous, on appelle ça les chiffres indiens. Alors, pourquoi? Et quel est le personnage central de ça, qui est complètement inconnu en France? C'est Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à algorithme. Mm-hmm. Le mot Al-Khwarizmi a visé entre 1850 et 920, et le mot algorithme en français date d'à peu près 1220. Donc ça n'a rien de récent, les algorithmes, contrairement à ce que croient les gens. Lui est le premier à avoir calculé de façon très précise, c'est-à-dire construit des processus de calcul qui ne demandent aucune intelligence, qui sont donc mécanicalisables. Le premier de ces exemples est la multiplication. La table de multiplication, comme on l'apprend aux enfants, et la façon de faire la multiplication, c'est l'invention d'Al-Khwarizmi. Personne ne sait ça en France, si les rendent, c'est comme ça. Et le mot est inconnu, son nom est inconnu. Bon, et l'équation du second degré, comment on résout une équation du second degré, c'est Al-Khwarizmi. L'algèbre, c'est Al-Khwarizmi. Donc, c'est l'algèbre, c'est Al-Jabr, c'est la théorie de la réduction, et donc de tous les calculs mathématiques formels, c'est Al-Khwarizmi. Donc, ce serait quand même utile de connaître ce nom. Hein.
Oui. Est-ce qu'il y a des livres qui parlent de ce savant? Est-ce qu'il y a une littérature autour de lui?
Alors, il y a une littérature et il va y en avoir une autre. Moi, j'ai lu une collection aussi chez Odile Jacob. Et le prochain livre qui va sortir s'appelle « Les algorithmes au Moyen-Âge ».
Et ben voilà.
Qui est l'histoire, il va sortir chez Odile Jacob au mois de mai. Mm-hmm. Et c'est l'histoire des algorithmes depuis Al-Khwarizmi jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Mais surtout au Moyen-Âge, avec des gens comme Fibonacci et des gens remarquables. Donc, voilà. Alors, les mathématiques, c'est beaucoup plus vaste comme domaine. Ça contient la géométrie, ça contient des structures maintenant qui ne sont pas comptables à un humain normal, même entre mathématiciens des fois. C'est un sens extrêmement élaboré. L'algorithmique, c'est plutôt les mathématiciens constructifs, c'est-à-dire qu'on, les mathématiciens qui vont servir à faire des choses, mais pas par de l'humain, par des machines. Donc c'est ça les algorithmes. Les humains ne sont pas assez rapides pour faire des trucs. Mmh. Nous, humains, on est incapables de faire une multiplication d'un 20 chiffres par 20 chiffres. Une machine en fait des milliards par seconde. Hein. Mmh. Donc, on ne joue pas là-dessus. Mmh. Mais par contre, on a d'autres moyens de faire, et en particulier d'être intelligent, ce qui est une notion difficile à définir. Voilà. Alors ça, c'est l'algorithmique, c'est ça. Alors l'informatique, c'est la mise en pratique de l'algorithmique sur des machines qui s'appellent les ordinateurs, qui sont récentes. Alors là, le grand génie, c'est Turing, Alan Turing, qu'on commence à connaître maintenant, mais qui est un des plus grands génies du XXe siècle. C'est comme Einstein, etc. Il a fait des choses totalement révolutionnaires, qui a fait la théorie des algorithmes, et aussi, bonne partie, la pratique des algorithmes. Mmh. Alors le problème des algorithmes, c'est le suivant. L'ordinateur est une machine qui ne fait jamais d'erreur. Ça ne fait jamais d'erreur. Ça peut en faire une toutes les, je sais pas, 1 000 milliards d'opérations, mais en plus, elle est assez facilement détectée, donc c'est pas la question. Et comment est-ce qu'on fait marcher une machine qui ne fait jamais d'erreur et qui fait des calculs qui sont un peu limites, même complètement limites pour les hommes? C'est ça l'informatique. Donc il faut programmer les machines, ce qui n'a rien de facile. Il faut s'assurer que le programme, c'est-à-dire les bugs sont toujours humains. Ils ne sont jamais dans les machines. Ils sont toujours humains. C'est une notion, quand on dit la machine s'est trompée, non. C'est l'homme qui a écrit le programme qui s'est trompé. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce que un programme comme, par exemple, le système opératoire de votre ordinateur, ça peut faire 30 ou 40 millions de lignes. Donc ce sont des objets, les plus gros objets qu'on ait jamais fabriqués sur la Terre, c'est des programmes informatiques. Ça peut être zéro, ça ne se voit pas, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc le numérique,
voilà.
C'est un mot que j'utilise, mais qui a été complètement dévoyé. Le mot numérique a permis aux gens en France qui ne connaissaient rien à l'informatique d'en parler sans savoir ce que c'est. C'est-à-dire c'est un mot valise qui sert à tout. Moi, j'utilisais le mot numérique dans un autre sens. Ma première leçon de garage s'appelait « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?» C'est un peu plus large que l'informatique. Par exemple, c'est tout ce qui donne des processus effectifs et utiles de calcul sur les nombres. Un exemple, c'est piloter un avion. Un Airbus, depuis 1982, le pilote ne pilote pas l'avion. C'est des ordinateurs qui pilotent l'avion. C'est beaucoup plus fiable d'ailleurs, mais le pilote dirige l'avion, il dirige le vol, il ne pilote pas l'avion. L'avion est piloté par des ordinateurs et des programmes. Et ces programmes font appel à une autre science que l'informatique, qui s'appelle l'automatique. Mmh. C'est la science du contrôle, c'est une science mathématique, et c'est la jonction de cette science mathématique et de l'informatique qui fait le boulot. Et ça, c'est le domaine que je connais très bien, pour y avoir travaillé longtemps, et contribué beaucoup. Et voilà. Donc ça, c'est pas du tout... Il y a trois informatiques. Il y a l'informatique qui connaît pas le temps, celle qu'on apprend à l'école, la plus classique. L'informatique qui ignore le temps volontairement, c'est l'informatique d'Internet, donc le cloud. Et l'informatique qui connaît le temps et doit y obéir très précisément, c'est l'informatique synchrone. Ça, c'est inconnu, mais il y a vraiment ces trois informatiques. Temps, asynchrone et synchrone.
Et votre informatique que vous pratiquez, vous, c'est celle qui est synchrone, puisque votre langage STL est appliqué aussi pour les avions, pour faire voler les avions. Donc, vous, c'est le temps et c'est basé sur le temps, votre informatique.
Tout à fait. Mais d'un autre côté, je fais aussi de l'informatique traditionnelle, par exemple, pour le compilateur qui va traduire les programmes synchrones qu'on écrit en programmes exécutable sur un avion ou sur un train ou sur une voiture ou sur n'importe quelle usine. C'est très vaste comme domaine, c'est très peu connu. Et voilà, exactement. Mais moi je me sers de toutes les informatiques pour travailler. Mais mon objectif, c'est de faire du synchrone. Mais voilà. J'ai un grand respect pour les autres. Hein. Toutes les informatiques servaient beaucoup.
Vous avez dit des choses qui, beaucoup de choses qui m'ont passionné, et notamment les bugs sont humains. Est-ce que c'est basé sur un problème de temps, de rupture de temps, de bon, ou, et vous dites qu'un ordinateur ne fait jamais d'erreur. Où tient cette compétence d'expertise de l'ordinateur?
Alors, ce n'est pas une compétence d'expertise, c'est complètement mécanique.
Oui, bien sûr, j'imagine. Oui.
La façon dont est fait un ordinateur, le circuit va faire, mettons maintenant, il va faire une trentaine de milliards d'opérations par seconde. Et des opérations complexes. Et il ne fait jamais d'erreur, c'est une propriété de la physique. Ça, ce n'est pas des maths, c'est comme ça. Un ordinateur ne fait jamais d'erreur, ou alors quand il... Ben évidemment, s'il y a des pannes mécaniques, mais il y a longtemps qu'il y en a très très peu. Alors bon, dans un avion, on en met quatre quand même, avec des systèmes de redondance et tout, mais c'est jamais ça qui tombe en panne. Alors d'où ça vient, ça? Les bugs, c'est jamais ou quasiment jamais une panne de l'ordinateur. Ça peut dans l'espace des fois, mais c'est négligeable. C'est que c'est très difficile à un humain d'être aussi bête qu'une machine. Un ordinateur n'a aucune intelligence. Il faut lui donner tous les détails de tout. Un humain, on ne lui donne pas de tous les détails de ce qu'il a à faire. Jamais, jamais, jamais. Et là, il faut. Et donc, on est assez incapable de tout décrire dans le menu ce qu'il faut faire sans faire une erreur. Or, les erreurs peuvent être très graves. Une petite erreur, ça peut changer complètement ce que fait un programme. Alors, dans les avions, il y a très peu d'erreurs parce qu'il y a des processus pour les éviter et tout. Mais une petite erreur, par exemple, si on décide de tourner à droite au lieu de la gauche, eh ben, on sort de la route. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de voitures automatiques. Depuis le temps qu'on dit qu'il y en aura, il n'y en a pas vraiment. C'est beaucoup plus dur que de faire ça que les avions. Et voilà. Donc, les occasions d'erreur sont partout. Quand vous écrivez un programme qui fait des millions de lignes, ce qui est assez courant, eh bien, essayez d'écrire un million de lignes sans vous tromper, quel que soit le sujet, ben, ça va être très dur. Et donc, c'est une erreur, c'est humain. Il y a des moyens de s'en débarrasser. Il y a des moyens de tester qui sont, eux, des moyens mathématiques. C'est-à-dire, il y a un autre rapport entre mathématiques et informatique. C'est les mathématiques qui servent à savoir si des programmes sont justes, sans les exécuter, d'ailleurs. Et donc, ça, j'ai fait aussi beaucoup, avec beaucoup de collègues. Ça s'appelle la logique, c'est un champ des mathématiques qui s'appelle la logique formelle, qui permet de faire ça.
Alors, un algorithme, est-ce que vous pourrez nous donner une définition? Un algorithme, c'est simplement une séquence d'opérations permettant d'aboutir à un résultat. Et comme vous le dites, sans penser le moins du monde. C'est-à-dire, il est bête, l'ordinateur est bête, et on lui donne des données, on lui donne à manger, des données, et il réalise quelque chose de façon très fiable.
Ben, on sait que pour écrire un algorithme, il n'y a besoin de presque rien. On a besoin de nombres, on a besoin de l'addition, on a besoin de tester si deux nombres sont égaux, et puis de stocker des nombres et de les relire. Avec ça, on fait tout. Ça, c'est Turing qui a montré ça. Bon, en pratique, on fait des choses un peu plus... Mais ça ne fait jamais que ça à la fin. Donc, c'est très simple, un algorithme. Et effectivement... l'informatique, c'est l'art de maîtriser ces algorithmes et de les rendre... Il y a des algorithmes qui sont d'abord expliqués mathématiquement. C'est un peu comme une recette de cuisine. Alors, la différence avec ce que vous dites, c'est avant, on disait un algorithme est une séquence d'opérations. Alors maintenant, c'est plus vrai. Ça, c'est resté vrai jusque dans les années 2000, pratiquement. Et maintenant, c'est plus vrai. Pourquoi? Parce qu'un algorithme, c'est formé de morceaux qui discutent ensemble, sans temps, ou avec du temps. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un mélimélo de séquence d'observation, d'instruction.
Alors, vous avez enseigné l'informatique aux enfants, mais c'est en mode débranché, c'est-à-dire unplugged, c'est-à-dire sans ordinateur.
Ah ça, absolument, ça a été une grande joie pour moi. On a un problème en France. La population ignore l'informatique. ça a été un choix, hein. Ça a été un choix industriel de ne pas être dans le sujet, que ça n'a pas d'avenir et tout. J'ai vécu ça toute ma, une bonne partie de ma carrière. C'est un choix qui coûte très cher. L'Europe est inexistante dans ce domaine, qui est maintenant la première industrie mondiale. Hein, qui est-ce qui existe ? Les Américains, les Chinois, un tout petit peu les Anglais quand même, qui ont été à l'origine de tout ça, eux. Les Israéliens, il y a beaucoup de gens qui sont qui considèrent l'informatique comme un sujet de premier rang. En France, ça n'a jamais été le cas. Et dans l'enseignement, l'informatique, il a été choisi jusqu'à une date très récente de ne pas l'enseigner. Et à l'heure actuelle, elle est très peu enseignée.
Pourquoi ce mépris ? Pourquoi ce mépris pour l'informatique ? Pourquoi est-ce que ce déni et cette exclusion de l'informatique en France ?
Alors déjà, il y a plein de raisons, mais elle n'a pas été inventée en France, par exemple. Ça, c'est une raison assez importante en France, parce que les savants français. Hein. Mais c'est quand même un peu vrai en Angleterre aussi. Parce que l'Europe est un vieux pays, on le sait maintenant. C'est un pays qui est beaucoup plus tourné sur son passé que sur son avenir. Et c'est comme ça. Voilà, les Européens n'y ont pas cru, simplement. Pof. Vous pouvez regarder la carte des 100 premières entreprises mondiales en informatique. D'européennes, il y en a deux, et ce n'est pas celle qu'on pense. Il y a une seule française, c'est Orange, et une seule allemande, c'est Deutsche Telekom. Et il y a aussi un Telefonica en Espagne. Personne ne sait que c'est des entreprises d'informatique. Ce ne sont plus que des entreprises d'informatique. Voilà. Donc on a ignoré ça. Alors, l'enseignement aux enfants, oui, j'ai fait ça depuis très longtemps. Alors, je ne pouvais pas le faire à l'éducation nationale, puisqu'ils n'en voulaient pas. Mm-hmm. Et il n'y a pas de formation. Le CAPES d'informatique, il est de 2021, je crois, ou 2020. Hein, oui. C'était déjà la première industrie du monde de très loin à cette époque-là. Bon, on a décidé de faire un CAPES, mais il est très peu. Et on en voit très peu d'enfants et pratiquement aucune fille en informatique. C'est dramatique. Bon, alors moi je voulais enseigner aux enfants et j'étais président d'une école Montessori, donc les méthodes d'enseignement sont tout à fait différentes et beaucoup plus orientées vers les enfants, je dirais. Et effectivement, je voulais expliquer comment faire des choses en étant aussi bête qu'un ordinateur. Mm-hmm. Et c'est trop dur d'utiliser un ordinateur. Il y a des choses bien pour les enfants. Il y a le langage Scratch qui est bien, qui ressemble beaucoup au mien d'ailleurs, c'est vrai. Ce langage, il n'est pas praticable avant 10 ans, 12 ans. Il y a trop de détails. L'informatique, il y a beaucoup de détails. Et les enfants, ils n'aiment pas les détails. Ils aiment bien foncer. Et donc, moi, je apprenais l'informatique sans ordinateur. Par exemple, pour compter, bon, ils connaissent la base 10, mais ils connaissent aussi les autres bases, une école Montessori. Et moi, j'aurais appris à compter en base 2. Alors, la base 2, c'est la vraie base pour compter, mais sauf qu'elle n'est pas très pratique pour les hommes. Mais on peut très, très bien le faire avec un jeu de Go. Et ça devient très naturel de compter. Et quand on écrit des nombres en binaire, donc en base 2, sur un jeu de Go, ça devient extraordinairement beau géométriquement. Mmh. Et on peut faire énormément de choses en alliant la puissance du calcul avec la beauté de la géométrie. Donc ça, c'est un truc très très joli. L'autre chose, c'est que je leur montrais qu'ils étaient incapables de ne pas faire d'erreur. Par exemple, je leur donnais un itinéraire à faire sur un carrelage. Dans les écoles, il y a souvent des carrelages. Donc, vous mettez un enfant à un endroit précis et il y a un langage informatique qui a trois lettres. T pour tout droit, D pour à droite et G pour à gauche. Et donc, les enfants vont aller de carreau à carreau en faisant tout droit, à droite, à gauche. Et je leur montrais que si on met, par exemple, un texte de 15 lettres de long, il n'arrive quasiment jamais à l'endroit où ils devraient arriver. Parce qu'ils ont fait une erreur sur le trajet. Mmh. Et c'est un peu pire, parce que ça, c'est l'informatique aussi. Quand on fait une erreur, c'est pas à côté de l'objectif qu'on est, c'est n'importe où. C'est ça. Par exemple, si au lieu de tourner à droite, on a tourné à gauche, ça n'a plus rien à voir. Quoi.
Voilà.
Donc ça, c'est extrêmement formateur. Il y a un enfant qui dicte, l'autre qui fait, et ils n'arrivent jamais à la destination. Sauf en se concentrant comme des bêtes, une fois qu'ils se sont trompés souvent. Donc ça, c'est absolument fascinant de les voir, et de les voir comprendre qu'ils sont absolument incapables d'être bêtes.
C'est ça. Alors que l'ordinateur, on lui donne 15 T, T puisqu'on avait dit, ça veut dire continue tout droit. Voilà.
Oui.
Il le fera, quoi.
Oui, mais ça le fait pas, oui, mais ça le fait pas rire. Il n'est pas content à la fin, l'ordinateur. C'est son gros défaut.
Et comment il n'est pas content avec, il fait pas de bug. Vous dites qu'il est vraiment très fiable, l'ordinateur.
Oui, mais il n'est ni content ni pas content. Il ne pense pas, lui.
Oui.
Il est fait pour ne pas penser.
Oui. Alors,
il ne faut pas croire que les ordinateurs artificiels pensent, hein, ça c'est totalement faux.
Ah, bien sûr que non. Alors, il y a un chapitre qui m'a vraiment charmé, c'est le mot, c'est la pataphysique. Alors, quelle est la genèse de la pataphysique, c'est-à-dire d'où c'est venu, commencer, Alfred Jarry, tout ça, comment? Et puis, quelle est l'incidence sur la création? Parce que vous aviez dit dans votre livre que lorsque faites de l'humour, la pataphysique, c'est donner des solutions imaginaires.
Allô?
Allô? Vous m'entendez?
Oui.
Ah bon, je voulais vous demander juste de nous parler de la pataphysique, de sa genèse et l'incidence sur la création.
Alors la pataphysique, c'est une invention d'Alfred Jarry à la fin du 19e siècle, qui était au lycée. Hein, au lycée. Il devait s'embêter un peu au lycée, je ne sais pas trop. Et il a inventé cette idée de pataphysique. Dans un livre qui s'appelle sur le docteur Frostroll, la publication du docteur Frostroll, et la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires à des problèmes, bon, c'est un peu plus complexe que ça le titre, mais c'est la science des solutions imaginaires à des problèmes, moi je rajoute à des problèmes réels ou pas.
Oui.
C'est une façon de penser différente. Et cette façon de penser a été adoptée par pas mal de gens, beaucoup plus tard, hein, dans les années 30, 40, 50, etc., puis maintenant aussi, par exemple, et a été créé le Collège de Pataphysique par un littéraire et un matheux, François Queneau,
Raymond Queneau,
qui a été quand même président de l'Académie française, hein, mais qui a été vilipendé parce qu'il a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Zazie dans le métro », qui est écrit non pas en français classique, mais en argot des gamins de Paris.
Ouais.
Et donc ça, c'était interdit. Bon. Et c'est un livre absolument merveilleux. Et puis après, la solution d'imaginaire à des problèmes réels ou pas, ça a attiré beaucoup de monde. Des artistes comme Juan Miró, des écrivains comme Boris Vian, comme Jacques Prévert, comme énormément de gens comme ça. Il y a une liste extraordinaire de pataphysiciens. Et alors, l'autre créateur, c'est François Le Lionnais, qui était lui mathématicien. Et en mathématiques, on peut faire de la pataphysique tout à fait pareil. Et donc, la pataphysique s'intéresse à tout, par construction, mais avec des points de vue très différents. Par exemple, j'ai deux chapitres pataphysiques dans le livre. Le premier, c'est sur la langue. Comment on parle du temps en français, et le français est une langue, déjà le temps a 5 sens différents, le mot temps. Hein. Le sens de temps qui s'adresse par 5 mots différents en anglais. Mm-hmm. Je ne vous les donne pas, il faut lire le livre. Et c'est très rigolo, c'est un mot qu'on appelle horriblement surchargé. Le temps qu'il fait, le temps en musique, etc. Bon, et du coup, comme on ne peut pas être précis, on a des expressions totalement rigolotes. J'en cite que deux. Quand on est pressé, quand on dit qu'il faut faire un truc vite, on me dit bah, « je vais le faire aussi sec ». C'est une expression dont je ne connais pas trop l'origine. Et ma préférée, c'est quand même pour dire à un moment très court, de dire « je l'ai fait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ».
Ah oui, alors là.
C'est vraiment de très loin la plus longue expression pour parler d'un temps court.
Ouais.
Mais il y a toute une classification de tous les mots que je connais, et j'aimerais bien que les auditeurs m'en donnent d'autres, hein, il y en a sûrement d'autres, de nationaux, hein, pas des locaux. Ça suffit déjà pour parler du temps. Donc ça, c'est la langue du temps est complètement prodigieuse. Par exemple, moi je suis en train de passer d'un certain âge à un âge certain. C'est très clair en français, ça ne se traduit pas en anglais, ça. Voilà, donc c'est très clair, mais quel est le sens de ça? C'est pas simple.
Alors vous avez parlé, vous avez parlé de pataphysique en mathématiques. Alors comment peut-on oser faire de la pataphysique en maths?
Mais les pataphysiciens osent tout. C'est pas du tout le problème. Moi, j'ai fait en physique parce que dans mon sixième chapitre, j'explique comment gagner du temps avec la vision pataphysique de la physique moderne. Comment gagner du temps quand on est sûr qu'on va rater son train pour avoir son train quand même. Et ça, c'est des découvertes de pataphysique. Pataphysique dans physique. Mmh. Alors, en mathématiques, eh ben, toute idée est rigolote et cohérente est bonne à prendre.
À quoi ça servirait? À quoi ça servirait alors d'aller dans la marge pour avoir une vision un peu délirante, et cette vision un peu délirante nous mettrait sur le chemin créatif de la véritable solution, c'est ça?
Ah ben, je pense que tous les artistes qui ont fait des révolutions ont eu des idées de ce type-là. D'ailleurs, beaucoup étaient pataphysiciens. Mm-hmm. Juan Miró était pataphysicien, il n'a pas du tout fait comme tout le monde. C'est aussi de se dire, nos raisonnements sont trop étroits, en permanence. C'est bien, mais faire des mathématiques, les gens qui inventent des trucs en mathématiques, ils ne travaillent pas comme les autres. Ils ont des idées qui viennent, on ne sait pas où. Par exemple, moi je sais que tous les collègues, toutes les idées sont venues comme ça. Je me suis réveillé avec. C'est pas en pensant qu'on a des idées. C'est en malaxant les choses de plein de façons différentes.
D'accord. Eh bien, ce livre est absolument passionnant. Je rappelle donc Le temps vu autrement. C'est un livre que vous avez écrit et fait paraître aux éditions d'Ile Jacob, Gérard Berry. Je rappelle que vous avez été professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Algorithmes, Machines et Langages entre 2012 et 2019. Et médaille d'or, mais alors là c'est complètement extraordinaire, médaille d'or du CNRS. Et vous avez fait paraître un autre livre intitulé L'hyperpuissance de l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des livres concernant la pataphysique? Si on est intéressé par ce domaine, quels sont les livres les plus passionnants, les plus charmants que vous pourriez nous indiquer?
Oh là là, ça c'est très très
Faustrol,
vaste.
Moi je peux vous en dire.
Oui, Faustrol, non, je vous donne un mot, c'est trop compliqué en peu de temps. Eh ben, déjà, tous les poèmes de Prévert sont très pataphysiques. Mm-hmm. Les livres de Boris Vian, L'écume des jours, l'automne à Pékin, ce sont des livres complètement différents, qui ont d'ailleurs marqué beaucoup leur époque, parce que c'est des films complètement différents. Les livres, il y a une publication du Collège de pataphysique qui s'appelle Viridis Candelal, cahier du Collège de pataphysique. Mm-hmm. Oui, celle-là, elle se trouve, il faut taper Collège de pataphysique sur Internet, mm-hmm. et on voit. Alors les pataphysiciens sont cooptés, hein, ils sont, voilà, moi je suis régent de déformatique, techniquement, et ça explique bien, parce que je dis l'informatique c'est la science de l'information, et la déformatique c'est le contraire.
Ah oui.
Donc ça veut dire que c'est une incitation à penser différemment.
D'accord.
Alors il y a de tout, il y a des machines pataphysiques, il y a des conférences pataphysiques, il y avait une conférence extraordinaire sur les états généraux du poil. Et le poil, bah c'est, moi j'ai dit, c'est une unité de longueur. Hein, le poil, c'est un poil près, un midi-poil près. Mmh. Mais on n'a pas le droit de dire un kilo-poil. Moi, je suis pour le kilo-poil, etc. Donc, il y a toute une activité pataphysique. Hein. Mmh. Mais, bon, c'est en même temps organisé et très désorganisé. C'est des gens très libres qui essayent de penser en dehors des limites. Mais ça n'empêche pas de penser dans les limites aussi. Hein.
Bien sûr. Alors, professeur Gérard Berry, merci beaucoup. Professeur au Collège de France, merci pour ce livre, Le temps vu autrement, qui paraît chez Odile Jacob. Et vous nous avez accordé très généreusement pratiquement une heure d'interview en deux parties, et celle d'aujourd'hui étant la seconde partie. Je vous remercie beaucoup. Et à bientôt. À bientôt, merci. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.